Bonjour, bonjour,
auditrices, auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 30 mars. Ça y est, l'équipe est à Marseille, au studio, Dominique et Françoise au micro, Louise à la technique, dans nos murs. Et aujourd'hui, nous allons vous lire des extraits d'un récit de Kaoutar Archie, une jeune écrivaine et sociologue française née en 1987, d'origine marocaine, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages dans les deux domaines, justement, à la fois de la sociologie et de la fiction. En fait, elle a commencé à écrire des romans à 22 ans, alors qu'elle était étudiante en sociologie. Et puis, elle a publié sa thèse, qui est devenue un essai, et d'autres études, on pourrait dire, sociologiques. En fait, avec ce livre que nous lisons aujourd'hui, « Comme nous existons », donc « Comme nous existons » de Kaoutar Archie, avec ce livre, elle est à la croisée des deux domaines. C'est le récit de l'enfance et de l'adolescence de Kaoutar dans un quartier périphérique de Strasbourg, mais avec des aspects, en effet, d'études sociologiques, parce qu'on ne se refait pas, et que même quand elle évoque ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, elle a de temps en temps des parties qui sont véritablement des études de ce qui se passe autour d'elle, dans son milieu, dans son école, dans son quartier. Et même si c'est un véritable récit, un véritable témoignage, en même temps, c'est aussi une étude sociologique de ce que vivent ou de ce qu'ont vécu les jeunes, et en particulier les jeunes femmes issues de l'immigration à la fin du XXe siècle. Donc, dans ce livre, Comme nous existons, Kaoutar Archie met l'accent sur les différences sociales qui perdurent à l'école et au lycée. On pourrait même dire, comme Bourdieu, que effectivement l'école reproduit les différences sociales. Elle retrace dans son récit un cheminement sensible. Elle revisite son passé à la lumière de sa formation et elle nous montre comment ses expériences ont formé justement sa pensée et son existence sociale. Son texte nous montre un véritable désir de justice et d'égalité à travers l'analyse des rapports de classe, de genre, de race, qui marquent sa vie, qui ont marqué sa vie et qui l'ont façonné. C'est d'ailleurs le sous-titre anglais de sa thèse. Le sous-titre anglais, c'est « A struggle for recognition », c'est-à-dire « un combat pour la reconnaissance ». Mais commençons par l'enfance, les souvenirs d'enfance, et c'est Françoise qui va nous lire le début.
J'étais âgée de 6-7 ans peut-être. Mes parents, Rania et Mohamed, se trouvaient dans cette pièce, assis côte à côte sur le canapé en tissu à carreaux. Ils visionnaient le film de leur mariage. Ils riaient de se revoir ainsi coiffés, vêtus. Ils riaient de revoir les visages de leurs proches. La maison du père de Mohamed, la rue passante et à quelques mètres de là, les deux chevaux blancs attelés à la calèche dans laquelle les jeunes mariés, tout un après-midi, s'étaient promenés le long de la corniche qui donnait sur l'océan. Et ce jour-là, quoique mal enregistré, grésillant, le son de leur voix, de leur jeune voix, vint jusqu'à moi. Une flèche d'amour a frappé mon cœur, l'a percé en son centre. Un foudroiement, je fus ému de les reconnaître. C'était leur voix, c'était eux. Cette fraîcheur, cette beauté avait des airs lointains. Elle appartenait à une autre époque, un autre lieu, une autre vie. C'était avant moi, je me dis, cela m'a précédé. Mes parents, une fois, furent jeunes, insouciants, et je l'ignorais. Comme ils se tenaient droit, elle plus que lui, entourée de leurs frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, la tribu aimée. Ces familles étaient sur le point de n'en former qu'une, très grande, bientôt disséminée par l'expérience diasporique. Le besoin d'argent, le besoin de travail, à travers de nombreux pays d'Europe. La France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Et voyez, maintenu par un diadème de pierres brillantes, ce voile de dentelle blanche qui tombait élégamment sur les cheveux noirs de ma mère, la robe de mariée en mousseline de soie, le bouquet de roses rouges qu'elle tenait de ses deux mains jointes. Voyez aussi le costume noir de mon père, la chemise couleur crème, le nœud papillon à pois. Que d'élégance! Et en arrière-plan, aisément visible à l'image, les petites richesses d'alors. La Mercedes rouge, une 240D, recouverte de rubans de satin, et plus loin, les paniers d'osier, emplis de cadeaux, alignés le long du trottoir. Dans l'est de la France, à S, dans le logement parental, quand la semaine s'achevait, nous faisions des choses qui sortaient de l'ordinaire. Nous lavions le sol, les murs, les portes, les vitres, à grande eau. Nous aérions les armoires, les placards, et faisions plusieurs lessives d'affilée. Et Rania, je la revois, assise à même le sol au centre du salon, les jambes en tailleur, elle vidait son sac à main de cuir noir de toute la paperasse amassée durant la semaine et qui avait fini par l'encombrer. Elle mettait précieusement de côté les documents administratifs, les factures, et jetait dans un sachet plastique prévu à cet effet les tickets de caisse, les enveloppes vides et autres coupons de réduction dont elle n'avait plus besoin. Une fois la nuit tombée, après la dernière prière de Mohamed, tandis que Rania et moi finissions de regarder l'émission de divertissement Froufrou ou encore un épisode de la série télévisée Arabesque, l'un de nous finissait toujours par se lever, allumer le magnétoscope et y glisser la vidéo du mariage. J'ai ce souvenir d'eux qui, soudain, se lèvent, repoussent le fauteuil et la table basse contre les murs et d'un coup abrupt tirent les rideaux. C'était lui, Mohamed, le premier à danser. Si ce fut bien une danse, certes, manière qu'il avait de se pencher vers l'avant, de dodeliner de la tête, d'étendre les bras et de faire l'avion. Puis Rania, à son tour, tanguait, élégante, légère, soulevant les épaules à rythme régulier. Ses mouvements étaient ténus, souples, l'émotion qui en émanait m'hypnotisait. Rania et Mohamed riaient doucement, puis très fort, puis si fort, c'était très bon. Entre les cloisons du salon, allongé sur le canapé, je visionnais encore et encore, je pourrais dire sans relâche, ce film dont je connaissais chaque détail de chaque scène, et projeté sur les murs ces reflets de la lumière des flashs photographiques. C'était comme être au cinéma, Rania et Mohamed, réel, irréel.
Réel, irréel, oui, c'est un petit peu toujours ce décalage, en fait. Le film de mariage, c'est à la fois le retour aux origines et puis l'existence dans l'appartement de S. S, c'est Strasbourg, dans le quartier de la Elsau. On y reviendra tout à l'heure. Celui où ils habitent, donc. En fait, les origines marocaines, les portraits des grands-parents avec des images de la jeunesse des parents, de la rencontre des parents, c'est aussi ce sur quoi revient Kaoutar dans un chapitre suivant, puisqu'elle parle très brièvement de ses grands-parents pour situer justement leur univers. De leur univers, disons, d'immigrés récents en France, dans l'est de la France, et précisément dans un quartier qui vient de se créer. Que dit-elle ? J'ignore son prénom, le prénom du père de Rania. Je l'appelais simplement Ba. De lui, beaucoup de choses me sont inconnues, le lieu et l'année de sa naissance, l'histoire de son enfance, l'histoire de sa vie au Maroc à l'époque coloniale, puis après l'indépendance. Je ne peux en vérité parler que depuis 1960, lorsque l'État français, cherchant à mettre fin à la primauté de la migration algérienne, avait pris la décision de favoriser aussi la venue de travailleurs marocains. Donc le père de Rania, comme d'autres, émigra du Maroc, immigra vers la France. Couturier doué de ses mains, il fut embauché dans le secteur du bâtiment. J'ignore précisément où. Et plus tard, il s'installa à Belfort. Et donc la famille s'installa dans l'Est. Elle fut autorisée pour refaire famille, comme on disait à l'époque, à s'installer avec l'homme déjà lui-même installé. de cette période-là, on a aussi le souvenir de l'autre grand-parent, enfin en l'occurrence de l'autre grand-père, de la grand-mère aussi. Et Hania disait que arrivée en France, elle parlait de ce besoin de retrouver en fait des racines auprès de ses parents déjà. Quand il préparait le café oriental, et quand il s'installait pour être en famille. Alors elle-même, adulte, eh bien de temps en temps, elle demandait à son mari d'aller voir ses parents, toujours à Belfort de Strasbourg. Donc comme ça, on prendra le train d'abord, puis la voiture, lorsque Mohamed, le papa, aura le permis de conduire. Et tous, Mohamed, Hania et bien sûr Kautar, viendront voir les grands-parents. Et Hania parlait à ce moment-là de ses souvenirs d'enfance à Belfort, l'ancienne école, le marché aux légumes, les enfants qui, dans le voisinage, jouaient au ballon, l'endroit où elle était tombée de vélo. Hania avait cessé d'être scolarisée à 16 ans. Et ça, elle l'avait dit un jour en me disant à moi que... elle voudrait que je fasse des études, qu'il n'était pas question que je quitte l'école aussitôt. Et Hania, un jour, était retournée au Maroc pour des vacances, et là, elle fut aperçue. Ah oui, ce terme de « apercevoir », je l'entends encore. En fait, Mohamed l'avait aperçue, c'est-à-dire que Mohamed l'avait vue. Il était assis derrière le comptoir d'une boutique où son père vendait coupons de tissu, bijoux, accessoires. Et il avait vu, oui, il avait aperçu Hania. Il l'avait vu, aperçu, vu et aimé. De la même façon, donc, le prénom du père de Mohamed, ben non, je ne le connaissais pas vraiment. Je savais juste que c'était Mohamed, mais en fait, c'était aussi Ba. Donc Ba, le grand-père. Bah, le grand-père encore là, installé à Casa, qu'on allait voir pour des vacances. Finalement, ce que je sais aussi, c'est sur Mohamed. Mohamed, oui, ce que je sais de lui, c'est qu'il avait arrêté l'école et entrepris des démarches pour entrer dans l'armée. Et que finalement, il avait repris aussi un petit peu l'aide de son père au magasin familial. Il avait ainsi pu économiser une certaine somme d'argent et il était parti travailler en France comme des cousins ou comme le beau-père, le futur beau-père, l'avait fait avant lui. Alors Mohamed, âgé de 17 ans, il était venu jeune commerçant ambulant s'installer à Paris. Et de retour au Maroc, il retournait bien sûr aider son père à la boutique. C'est comme ça qu'il avait aperçu ma mère. Il avait... aperçu, vu et aimé Hania. C'est comme ça qu'ils s'étaient connus. Ça, c'était donc les souvenirs des grands-parents, de la rencontre des parents, de la famille qui se constitue. Et puis, cette famille constituée, cette famille installée, comme on vient de le voir dans l'est de la France, Kautar nous en fait une description plus sociologique en parlant du quartier où ils se sont installés. En effet, il s'installe dans ce nouveau quartier de la Elsau, donc un quartier périphérique de Strasbourg. Elle nous le décrit. Entouré de vastes étendues d'eau entre l'île et le canal du Rhône au Rhin, il y avait encore des paysans qui cultivaient là un certain nombre de denrées du quotidien. Dans ce quartier entouré d'eau, donc, on a peu à peu étendu l'industrialisation et l'habitation de Strasbourg. C'était dans les années 60. Se sont installées des usines pas trop polluantes de gélatine, de colle, de blanchisserie. Mais quand même, il y avait une tannerie où beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières s'épuisaient dans une odeur assez insupportable. Et j'ai découvert un jour que ce quartier de la Elsau avait la même date de naissance que celle de ma mère, Hania. En fait, la Elsau est née d'un grand projet le 25 février 1964. Des hommes se sont réunis et ont décidé de construire des routes, des immeubles, des écoles, et même une église, et même des parkings, Et oui, et la place Nicolas Poussin et le centre commercial. Là où nous vivons, ai-je dit à ma mère, c'est né finalement le jour même de ta propre naissance. Et Hania m'a regardée vraiment étonnée et elle a dit « Quoi, vraiment ? Ah mais alors, c'était fait pour moi ce quartier, c'était écrit. » Et Hania, une fois installée là, au sud-ouest de Strasbourg, à proximité des rivages de l'île, elle habitait donc une zone de grands ensembles, mais une zone de grands ensembles juste limite d'un habitat pavillonnaire. Et nous, dans cette allée piétonne et arborée, l'allée Jean-Baptiste Pigalle, nous vivions au numéro 31. Souvent, Hania ou Mohamed se penchaient à la fenêtre, à la grande fenêtre du salon. Ils surplombaient l'espace et leur regard butant inlassablement contre l'autre côté de l'allée, contre un autre ensemble, s'évadait aussi vers le sud, vers les jardinets et les parkings de l'habitat pavillonnaire. Hania et Mohamed répétaient souvent qu'ils auraient aimé déménager et vivre parmi ces autres gens là-bas. Là-bas, c'était pratiquement en bas de l'immeuble. L'Elsa où comptait deux écoles maternelles et primaires, Marie Curie au sud et Paul-Éluard au nord, et un seul collège, le collège Victor Hugo. En fait, dès mon jeune âge, les parents ont voulu me placer ou me déplacer, enfin c'est une image un petit peu difficile, mais en tout cas faire que je puisse aller avec les enfants du quartier pavillonnaire à l'école du quartier du Sud. En véritable stratège de mon existence, Hania et Mohamed ont déployé un imaginaire de résistance, une espèce d'infra-résistance, faite de plans, de ruses, d'astuces, pour que je sois là où il leur semblait qu'il fallait que je sois, justement. À force d'insister, en 1993, ils ont obtenu la dérogation scolaire qu'ils avaient demandée. Et bien qu'habitant au nord de l'allée, mes parents furent autorisés à m'inscrire dans cette école primaire du Sud. Plusieurs fois par jour, alors, petite écolière sage, je parcourais la longue allée arborée du nord au sud, puis en sens inverse, le matin avec Mohamed, l'après-midi avec Hania, selon que le travail leur octroyait du temps ou non, du temps un peu moins. Nous qui sortions assez peu, nous étions assez casaniers, nous partions en balade le dimanche matin. Et là, sur les rives de l'île qui coulaient, nous longions le chemin bordé de pavillons. Et là, mes parents se reprenaient à vouloir habiter ce quartier. Et dans la mesure où moi, j'allais à l'école du Sud, eh bien finalement, ça leur donnait davantage d'assurance pour habiter ce quartier. Et leur rôle de père, de mère, ils l'assumaient beaucoup mieux, puisque j'étais là-bas, avec les autres, à l'école du Sud, les autres qui habitaient les pavillons, bien sûr. Alors, cette espèce de ségrégation sociale qui se met en place entre les grands ensembles et les pavillons, cette ségrégation sociale, il y a un certain nombre de personnes qui entourent la famille de Kaoutar qui vont les renforcer dans leur idée de la maintenir, justement, en particulier pour l'inscription au collège. Alors, de quoi s'agit-il effectivement ? Il s'agit, puisque la période de l'école primaire touche à sa fin, de choisir un autre collège que le collège Victor Hugo. C'est Françoise qui va nous dire ça.
La période de l'école primaire touchait peu à peu à sa fin. Rania commença alors à se demander vers où me déplacer. Une fois, je dis, et le collège près de la maison ? Là où vont tous les autres enfants, le collège Victor Hugo ? Rania me répondit que c'était bien trop dangereux. Les voyous, ajouta-t-elle, ils rentrent du collège et il faut voir comme ils se comportent sur le chemin. Ils poussent des cris, ils se jettent les uns contre les autres. Et ce qu'ils font aux filles, ces garçons, ils les embêtent, ils les influencent. Et les filles, après, c'est fini, elles cessent d'être des filles bien. Le garçon arabe qui aurait pu faire du mal à sa fille arabe hantait ma mère. car prise par des frayeurs toutes maternelles, soucieuse aussi de ma qualité, mon honneur, ma respectabilité, Rania se laissait aller à croire qu'elle entendait à longueur de journée à la radio et à la télévision surtout, à propos de ces jeunes garçons que l'on disait saccageant et détruisant tout sur leur passage. Elle se mettait à ressasser. J'imaginais ce que les instituteurs, le médecin, le patron, le banquier, l'assistante sociale lui avaient conseillé de faire. « Ne scolarisez pas votre fille ici, madame, mais ailleurs, plus loin, éloignez-la. » J'attendais quelques instants, puis je revenais vers Rania. Je posais alors ma main sur la sienne. Elle se retournait, ouvrait sur moi ses grands yeux noirs. Rania, effrayée et souriante à la fois. J'aurais voulu lui parler, lui dire que ces garçons, je les côtoyais, je jouais avec eux, je les aimais bien. Lui dire aussi que ce que lui conseillaient ces gens, m'éloignait de mon monde et des miens, trahissait au vrai la haine. Leur haine des garçons arabes, des arabes tout court, et que c'était de ces gens qu'il fallait se méfier. Au fond, d'elle, je sais que Rania le savait. Jamais, au vrai, elle n'avait été dupe de ces gens qui, parlant des nôtres, ne laissaient pas votre fille fréquenter ces jeunes, nous révélaient sans le vouloir ni même le savoir ce qu'ils pensaient de nous. C'est ainsi. Il y eut, qui fonda notre histoire, ce pacte d'être une famille à laquelle rien ne devait arriver. Et cette idée matricielle, l'idée dont je fus en tant que fille la cible privilégiée, que si quelque chose de grave arrivait, ce serait par moi, ce serait ma faute. Et jamais dans l'enfance je n'ai su ce que Rania et Mohamed craignaient à ce point qu'il nous arrive, mais je le craignis beaucoup. Et quelle fut la source de la fragilité de ma mère ? Si ce n'est, avant tout autre, la mienne. Et jamais je ne sus l'aimer, cette mère, sans cacher au creux de cette dévorante passion une demande de pardon. Inclination née de ce que j'observais chaque jour, cette lutte pour que je sois assurée, rassurée dans ce monde, d'avoir quelque part une place. Une lutte menée en mon nom, c'est pour toi que je fais cela, sans plainte ni regret. Anonyme cette lutte, tapis dans l'ombre des vies parentales post-coloniales, une lutte dont j'étais à la fois l'objet, le sujet et le témoin. Un jour de 1998, je fus finalement inscrite dans un collège privé, catholique, situé à quelques rues de la cathédrale de Strasbourg. Je cessais alors de parcourir la longue allée arborée, du nord vers le sud de l'Elso et inversement. La frontière à franchir était désormais d'une toute autre nature. Il y avait à quelques dizaines de mètres de notre immeuble un arrêt, et à cet arrêt passait toutes les 30 minutes un autobus gris et vert, le 38, dans lequel travailleurs et travailleuses s'agglutinaient tant qu'il arrivait régulièrement que les portes ne se referment pas, ou alors qu'à moitié. Un matin, à mon tour, je suis montée dans ce bus. Ce n'était plus aller et venir d'un bout à l'autre de l'espace, mais découvrir l'existence d'autres espaces. Des espaces où Rania et Mohamed n'étaient pas, où moi, pourtant, je m'apprêtais à être. Et dans la clarté des souvenirs inoubliés, je me revois à 10 ans, cartable sur le dos, monter pour la première fois de ma vie dans ce bus, le 38, et me rendre seule vers un collège inconnu.
Oui, le collège, c'est donc la nouvelle expérience que va connaître Kautar. Et avec le collège, finalement, ces expériences de ségrégation, moitié admiration, moitié haine, moitié sentiment, on pourrait dire mitigé, justement, vont s'approfondir. Parlons donc du collège. De là, beaucoup de choses changèrent, basculèrent, furent modifiées par la distance géographique qui désormais nous séparait. D'un côté, Rania, Mohamed, les grands ensembles et moi, au point de dessiner finalement une forme de vie nouvelle. Parce que l'absence de mes parents, que je ne connaissais que par intermittence, cette absence s'est marquée de ma vie au collège. Il y avait à l'avant de l'autobus des filles différentes, des filles qui formaient un petit cercle, 4 ou 5 filles aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Elles abordaient, Elles arboraient, pardon, des visages sublimes, un peu comme des comédiennes de séries télévisées que j'aimais regarder en fin d'après-midi. Ces filles, elles étaient plus âgées que moi, mais elles allaient dans le même collège. Elles avaient la peau blanche, douce, le teint uni, poudré, fini au pinceau, une espèce de perfection. Et durant le trajet, souvent, je m'approchais de ces filles. J'avais envie de les percevoir mieux, de les voir de plus près, de contempler la beauté de ces corps qui me paraissaient idéal. Et quelquefois, je me retrouvais simplement, me rapprochant d'elles, avec une autre fille comme moi, Hadija. Et dans l'autobus, nous fûmes deux petites filles qui, à certains moments, affrontaient presque la violence de ces yeux si bleus, mais qui en même temps cherchaient à leur échapper. Station après station, l'autobus accueillait plus de monde et nous, deux petites filles brunes, nous nous rapprochions peu à peu de ces grandes filles blondes. Et d'un coup, dans le calme d'un autobus dont nous étions arrivés vers le centre les dernières passagères, nous avons entendu le bruit de talons qui claquaient sur le sol. Et je découvris ces filles qui, se rapprochaient de nous. Elles se figèrent dans les trois couloirs qui séparaient les rangées de sièges. Elles se tenaient à la barre centrale, un peu comme nous. Et à un moment, l'une d'elles, la chef du groupe en quelque sorte, la plus grande, nous regarda de son œil clair. Elle se rapprocha de nous et elle nous demanda ce que c'était que nos cheveux sentaient. Elle nous dit... « Qu'est-ce que c'est que vos cheveux sentent comme ça ?»« Comme quoi ?» je demandais. « Comme de l'huile, » répondit-elle. « En fait, vos cheveux, il faudrait les couper. »« Couper, mais oui, bien sûr, les couper. »« Parce qu'en les enroulant, en les huilant comme ça, vos boucles, mais ça fait une odeur pas possible. » Et je me souviens du visage de ces filles, des visages qui peu à peu me parurent grimaçants, aux traits altérés, laid comme j'aurais jamais cru qu'il puisse le devenir. Ces visages qui s'étaient enlaidis par simple dégoût de ce que Hadija et moi, à travers notre apparence, nous inspirions. Nous étions finalement des poupées chiffonnées et c'est tout ce que nous étions pour elles. Alors pesa autour de nous un grand silence, un grand vide. Il n'y avait plus de parents, nous étions simplement des filles. D'un côté, nous deux, et puis de l'autre, ces quatre ou cinq filles un peu plus grandes et beaucoup plus blanches. Alors oui, c'est finalement cette première image enfantine et primordiale de la race que j'ai gardée. Une idée qui n'était pas la race en tant que telle, mais qui était bien l'apparence. Une forme précoce et déterminante de cette ségrégation. De cette ségrégation de notre communauté que juste à nous deux, nous avions reformée, une communauté de l'expérience qui s'était déterminée dans ce champ clos de l'autobus, le temps d'un trajet, le temps d'une séparation terrible. Et oui, c'est à la fois l'admiration pour les autres et la ségrégation d'avec ces autres qui se dessine dans ce trajet pour le collège. Et en fait, cette ségrégation, elle se renforce aussi à l'école même. Elle se renforce à l'école de la même façon que elle va s'exercer, disons, de la part de professeurs qui ont souvent, vis-à-vis des jeunes comme Kauta, une attitude complètement ségrégative aussi, qui leur reproche d'avoir en effet un autre comportement, d'avoir des objets qui sont séparés des autres. Et un jour, un professeur, un peu énervé par le comportement indiscipliné de Kauta, va lui demander de lui apporter sa trousse. Agacé par mes gloussements, un professeur s'approcha de moi, me confisqua même ma trousse en la fouillant et découvrit parmi les stylos un petit paquet que maman y avait posé. Un petit paquet bien enveloppé qui était là pour me protéger. Lorsque le professeur le prit, Du bout des extrémités du fil rouge qui l'enveloppait, je cessais de respirer. Ben oui, un cadeau de Hania, maman, qu'elle avait placé là. Je ne savais même pas ce que c'était. Le professeur me demanda, je dis non, je ne sais pas. Le professeur me demanda donc de venir à son bureau et de lui révéler ce qu'était cet objet. Je pensais à Hania qui avait posé cet objet dans ma trousse et je ne savais vraiment pas ce que pouvait être ce petit objet blanc posé sur le bureau. Finalement, le professeur déballa et trouva au centre du petit tissu replié un minuscule Coran qui était ma protection, bien sûr, celle que maman avait placée dans ma trousse. Le professeur se saisit alors du petit livre, du fil rouge et du morceau de tissu blanc qui l'entourait, ouvrit d'un geste sec le tiroir de son bureau et dans une boîte plastique où il y avait déjà des trombones, des craies, des épingles, il les jeta. J'en eus le cœur bafoué. Donc en effet, la ségrégation, la séparation, elle existe même au collège. Et peut-être pour résister à cette ségrégation et à cette séparation, on va faire appel à la pause musicale pour aller rechercher avec Cinzia Emilia tout le bonheur du monde. Mais vous savez, Cinzia Emilia, c'est un peu ironique quand même. Hein. Donc, tout le bonheur du monde, c'est bien.
Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Eh oui, tout le bonheur du monde, c'est ce que nous souhaite Cinzia Emilia, mais avec une sacrée ironie, en effet. Les groupes de l'époque, Cinzia Emilia, Trio, Manu Chao, ils sont quand même très critiques, justement, de la société qui existe autour d'eux et de la société prévue, on pourrait dire, pour l'avenir des jeunes à la toute fin du XXe siècle ou au début du XXIe. Donc moi, je me souviens bien des gamins là, qui sautillaient sur Sinsémilia ou Trio et qui, en même temps, commençaient à se dire que peut-être le monde qu'on leur prévoyait n'était pas vraiment celui qu'ils auraient pu souhaiter. C'est exactement ce qui se passe pour Kautar. En fait, elle est au collège, elle perçoit les difficultés des gens d'origine modeste. Elle voit très bien la ségrégation à la fois sociale, raciale qui s'exerce. Et elle prend de la distance peu à peu vis-à-vis, en effet, de cette image à laquelle peut-être ses parents voudraient qu'elle ressemble. Elle nous explique ça très bien. Un jour, je vais vous lire l'extrait. En poussant la porte du logement parental, je me suis dit à un moment qu'il fallait que je parle aux parents. Il fallait que je leur avoue l'inavouable. L'école, en aucun de ses aspects, n'était une seconde famille, celle dont ils avaient tant rêvé. La promesse de l'école, c'était un mensonge. Les professeurs n'avaient jamais été des parents pour nous, des parents comme pour les autres. Cette école était un espace mortifère où les riches se moquaient des pauvres, où les garçons harcelaient les filles, où les élèves valides frappaient de temps en temps des élèves handicapés et où le racisme sévissait chaque jour. Je souffrais en fait de cette institution, de ses règles, de son autorité, des petites violences du quotidien, des humiliations que certains élèves subissaient et que même les professeurs faisaient subir à certains élèves. Mon unique amie, Khadija, était là, heureusement, sans laquelle j'aurais été livrée aux filles et aux garçons de ma classe qui n'en finissaient pas de me dire de me couper les cheveux, en effet, ou de rentrer à la maison pour me retrouver avec les miens. Finalement, ce dont j'avais envie, c'était travailler aux côtés de Hania et Mohamed, joindre la force de mes bras à la force des leurs. J'aurais voulu leur dire que je rêvais ardemment d'être avec eux, de prendre ensemble chaque matin l'autre bus, le 42, et que nous nous rendions en famille vers les chantiers, le nettoyage, là où nous gagnions notre argent, pour avoir finalement en famille davantage d'argent et développer le lien familial véritablement entre nous. J'étais décidée un jour. J'étais dans la cuisine. Et puis, il y eut le fracas des portes qui claquent, des chaussures saisies par le talon, retirées d'un mouvement brusque. Il y eut l'exclamation de ma mère ou de mon père. « Ah, foutu patron, maudit pays !» Oui, tout cela qui les contraignait à travailler tant jusqu'à l'épuisement. Et tout cela, ça me revint en mémoire en même temps que me revint la conscience de la parole prononcée un jour par Hania. Heureusement que c'est pour payer l'école de la petite que nous faisons tous ces efforts. Alors ce soir-là dans la cuisine, ce soir-là, je gardais sur le cœur tout ce que je voulais dire. Et quand ils entrèrent dans la cuisine et me demandèrent si tout allait bien, « Oui, tout va bien », leur répondis-je. Donc Kautar prend conscience des différences, mais finalement elle ne révèle rien à ses parents. Parce qu'elle va, être fidèle à l'image que ses parents veulent qu'elle devienne. Et puis, elle va de temps en temps aussi en vacances au Maroc avec eux.
Quand je fus au Maroc, passant moins des vacances qu'observant Rania et Mohamed vivre l'expérience du retour chez soi, je voulus le dire. Dire « Allez, ça suffit ». Je rentre chez moi, mais jamais je ne pus, car Rania et Mohamed eurent toujours les paroles, les regards, les gestes qui désarment. Rania et Mohamed rendaient chaque jour visite à leurs familles respectives, allant de maison en maison, les bras chargés de cadeaux, du thé, du lait, du tissu, des vêtements pour les nouveau-nés. Moi, je les suivais avec plus ou moins de plaisir. À chaque question qui leur était posée, Rania et Mohamed répondaient d'une même voix « Oui, tout va pour le mieux ». Par ces quelques mots, ils jetaient un voile pudique sur leur vie. En vérité,
Mes parents mentaient. Tout était recouvert par le mensonge. Ils mentaient si sincèrement. La sincérité des innocents qui, mentant, luttaient pour conserver le sens d'une vie. Le sens dans lequel cette vie se serait écroulée, sans lequel cette vie se serait écroulée sur ses illusoires fondations. Alors, ils mentaient aux cousins, aux cousines, aux tantes, aux oncles. Oui, vraiment, tout va pour le mieux. À la nuit tombée, Rania et Mohamed repartaient chez eux. Ils préparaient alors le repas, quelque chose de léger, lui répétait-il. Puis, ensemble, ils s'installaient devant la télévision et dînaient ainsi dans cette quiétude. En fin de soirée, ils éteignaient toutes les lumières et rejoignaient leur chambre. Je me trouvais, moi, dans la pièce d'à côté. J'étais allongée sur le lit et je les entendais échanger encore quelques paroles, répéter qu'il avait fait beau aujourd'hui, très beau. Puis, à voix basse, l'un interrompant l'autre, ils dressaient le programme des visites familiales du lendemain. Et les entendant décider ensemble des vêtements que chacun porterait, j'étais alors tel ce parent attendri par la joie de ses enfants, qui finit par devenir joyeux à son tour. Là-bas, je les revois encore, Rania et Mohamed étaient en ce haut lieu, le lieu dit de l'amour, l'amour, l'île enchantée.
Oui, l'île enchantée, on ne sait pas trop si c'est le retour au pays, l'amour entre ses parents, en effet, qui retrouvent leur pays. Si c'est finalement aussi ce qu'ils reconstituent entre eux, puisque en fait cette île enchantée qu'ils reconstituent comme étant ce qu'ils ont construit en France, bah, c'est une fausse image bien sûr, c'est une image dorée ou rosée qu'on présente à la famille alors que la situation en France n'est pas du tout rose bien sûr. On le sait très bien, les migrants ont tendance, lorsqu'ils repartent chez eux, à dire que, comme les parents de Kautar, tout va pour le mieux. C'est pas tout à fait ça, bien sûr, et c'est pas tout à fait ce que vit Kautar elle-même non plus, puisque, en fait, le fossé, disons, social s'approfondit entre Kautar et ses camarades de classe. Les différences sociales s'affirment au fur et à mesure que les jeunes prennent de l'âge. Et ce qu'ils vivent, bien sûr, est différent en fonction de leur milieu d'origine. Donc, ces situations différentes qui s'affirment, ces situations sont aussi soulignées, on le disait, par les professeurs qui, de façon quelquefois un peu inconsciente, stigmatisent les enfants immigrés. Par exemple, un professeur qui donne à Katouar un livre en lui disant « Tu verras, c'est l'histoire des tiens ». Et en effet, c'est un beau livre illustré que Katouar feuillette et elle voit que c'est l'histoire de l'Afrique du Nord, racontée bien sûr par des historiens français. Et ce professeur demande même à Kautar de faire un exposé pour une autre classe de ce que contient le livre. Donc Kautar travaille très honnêtement sur le livre que le professeur lui a donné avec une dédicace à ma petite arabe si brillante. Eh oui, ma petite arabe si brillante, elle était la seule dans cette classe-là, bien sûr. Et on demande donc à la petite arabe si brillante d'aller parler de la civilisation du Maghreb à une autre classe. Donc très honnêtement, Kautar va faire ce travail. Et elle revoit encore cette classe, tous ses élèves devant elle, à qui elle doit s'adresser, ses élèves qui sont bien sûr d'une majorité blanche, et face auxquels elle se retrouve seule. Elle a encore le souvenir de cet exposé qu'elle fait, de ses origines, de sa culture, de sa religion, et même de la prononciation qu'elle donne de quelques mots de sa langue maternelle. Elle s'est exécutée sur la demande de son professeur. Et puis, en même temps, ce jour-là, et face aux autres, elle réalise qu'il s'agit d'une intrusion. Il s'agit de quelque chose qui est en fait une agression. Et cette agression, elle l'a ressentie ce jour-là, elle ne s'en départira plus, puisque à partir de ce jour-là, en effet, elle saura qu'il y a de véritables barrières qui sont non seulement maintenues, mais construites par l'école. Et ça s'accentue encore lorsqu'on va parler d'orientation. Vous allez voir, Françoise va vous lire ça.
Durant l'année de terminale, nombreux furent les élèves qui avaient posé sur leur table de travail une épaisse enveloppe brune. Je fus frappée, car à leurs yeux, aux yeux de ces élèves et de ces professeurs, le diplôme ne semblait pas représenter qu'une simple formalité. Il était déjà acquis, possédé, alors qu'il demeurait pour moi source d'une grande inquiétude. Je devais le passer et parvenir à obtenir un nombre nécessaire de points. Aussi sûr d'eux-mêmes, habité par une confiance qu'aucun effort ne m'aurait jamais permis d'acquérir, les élèves évoquaient les noms des formations, d'instituts, d'écoles dans les villes, des pays sur des continents lointains. Et à nouveau, je m'étonnais qu'ils ne parlent jamais d'argent. L'argent nécessaire à la prise en charge des frais d'inscription, des déplacements, du logement, des repas nécessaires à l'achat de nouvelles affaires. À les entendre, tout cela semblait gratuit, ou alors ces choses-là étaient sans prix, car l'argent ne constituait guère une difficulté, un obstacle. L'argent était un capital disponible, le capital des parents dans lequel les élèves savaient pouvoir puiser. Mes camarades de classe ne savaient pas ce qui les attendait, mais que ce serait quelque chose de bien, ça, ils en étaient assurés. La place de ces élèves, je pensais, est faite. Leur place dans ce monde existait avant qu'eux-mêmes n'existent. Cette place a été préparée pour eux. Une place, et quelle place de choix. Comme si l'ensemble des avenirs leur était accessible. Ils n'auraient qu'à venir un jour se présenter et prendre place. Seuls les garçons, à quelques exceptions près, posséder ces précieuses enveloppes. Car les garçons, blancs toujours, étaient entourés, protégés, pris en charge, chéris par l'école, comme si l'école était leur famille. Et je me souviens des filles, petites, orphelines de l'institution, inconscientes de l'être, car occupées à penser à des garçons qui pensaient à leur avenir. Je suivais les amours que vivaient les filles de ma classe avec un intérêt proche, si ce n'est plus intense encore, de celui porté aux séries télévisées que je regardais quotidiennement une fois rentrée à la maison. Peut-être même qu'il m'arriva à certains moments de ne plus distinguer les peines de cœur réelles de celles fictives et de confondre les filles de ma classe avec ces vedettes féminines du petit écran. L'école réserve un sort aux garçons, je pensais, et un autre aux filles.
Oui, donc là, on a la perception à la fois des clivages sociaux et des clivages liés au sexe, puisque dans les milieux favorisés, finalement, les garçons sont nettement plus poussés vers, entre guillemets, les études que les filles. Et de façon tout à fait éclairée, Cautard se rend compte que l'avenir pour les garçons, c'est la profession, et l'avenir pour les filles, c'est justement les aventures et bien sûr le mariage avec ces garçons promis à de brillants avenirs. Vous savez, c'est tout le bonheur du monde, on y revient. Donc finalement, les enveloppes brunes, vous avez compris, c'est les enveloppes qui préparent l'orientation vers, évidemment, des études supérieures qu'on souhaite brillantes, que les parents souhaitent brillantes, que les enseignants souhaitent brillantes, puisque ça perpétue, finalement, la formation que suivent les jeunes dans le collège privé où ils sont inscrits. Et les enveloppes brunes, eh bien, finalement, pour Cautard, ça ne va pas tout à fait être ça. Elle ira à l'université de Strasbourg. Mais ces enveloppes brunes, elle va nous dire qu'en ce qui la concerne, elles sont remplacées par quelque chose de bien différent. En lieu et place des enveloppes brunes, durant les derniers mois de cette année de terminale, sur ma table de travail étaient posées là, maintenues ensemble par une agrafe, les photocopies de quelques pages d'un ouvrage, la double absence, des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, écrit par le sociologue algérien Abdelmalek Sayad. Lisant moins les paragraphes de texte que les titres qui les annonçaient, la faute originelle et le mensonge collectif, une relation de domination, les torts de l'absent, je fus peu à peu intéressée par toutes ces notions qui apparaissaient ensuite dans de longs paragraphes, et ce fut un éclat dans mon cœur. Un éclat dans mon esprit d'abord et dans mon cœur ensuite, puisque ce fut une véritable joie. En fait, Abdelmalek Sayad fut grand, fut total. C'est vraiment la révélation de ses analyses qui m'apportait l'analyse précisément de ce que j'avais ressenti depuis quelque temps. Ce fut la possibilité de lire sous sa plume un horizon plus vaste que l'absence de mépris, plus riche que la promesse d'un titre, d'un statut, d'une fonction, d'une place. Ce fut entre-apercevoir la possibilité d'une véritable autonomie, d'être libre, de devenir libre, plus que ne l'avaient été Hania, Mohamed et bien d'autres. C'était la possibilité de rompre avec la politesse et de détruire les masques, les dissimulations et tout le reste de ce que j'avais subi jusqu'à présent. L'éclat dans le cœur, l'éclat de joie est né de cela, de ce sentiment mêlé d'impatience et d'excitation, de voir des choses tenues secrètes jusqu'à là, m'être ainsi révélées. Je perçus tout cela comme un droit, oui. Celui d'être informé de choses qui nous concernaient, Hania, Mohamed, moi et tous les autres. Comme un devoir aussi. Je me devais de comprendre ce qu'Abdelmalek Sayad avait compris de lui-même, de ses femmes, de ses hommes, avec lesquels il s'était longuement entretenu dans ses relations sociologiques, de ce qu'il avait compris en fait, de ce que nous étions véritablement, et qui nous permettait d'accéder aux principes de nos vies, de découvrir la vérité, la seule qui vaille, notre vérité supérieure à tout. À cette époque-là, l'urgence matérielle grondait. Les agences intérimaires n'avaient plus que de rares travaux de ménage, d'entretien ou de soins aux personnes à proposer à mes parents. Quelquefois, leurs revenus en pâtissaient. Notre forme de vie consistait à nous battre pour tout. Nous étions en vie, oui, nous participions à la vie, à son mouvement, à sa perpétuation, le biologique était assuré. Mais en fait, à l'égard de cette vie demeurait la sensation d'un écart, d'une distance, d'un éloignement. Nous ne vivions pas la vie, nous nous démenions pour la faire aller, la faire durer, la faire exister. La vie, toujours, c'était le rivage à atteindre, la terre à gagner. Et ce livre, La double absence, alors que j'avais 17 ans, il me révéla, il donna un sens inespéré, jusqu'à là introuvable, au sentiment ambivalent de vivre et de ne pas vivre que j'avais ressenti. Ce livre a projeté ses lumières sur mes hantises, mes doutes, mes soupçons. Il fut, entre mes mains, telle une cartographie de notre vie d'immigré. La carte grâce à laquelle je pus ensuite partir à la recherche de ma vie personnelle. Vouloir appréhender ce principe de nécessité de la lutte qui organisait nos existences postcoloniales et populaires m'a rendu sensible à la théorie, à ce travail de théorie, ce travail douloureux mais satisfaisant d'explicitation des expériences collectives. Et cela, ça a été en effet un rapport aux idées et au monde des idées qui permettent de construire un véritable avenir. Je ressentis le besoin de savoir, et ce savoir se devait d'être utile, pratique, efficace. Je fus alors porté à croire, dès ma jeunesse, que la théorie avait le pouvoir, comme des baisers, des plantes, des prières, le pouvoir de guérir et de transformer. Ainsi, je pourrais un jour maîtriser cette science de l'abstraction et nous pourrions nous affirmer en nous attachant collectivement à dénoncer l'arbitraire des vies dominées, sans vouloir dominer à notre tour. Au contraire, Nous tenions le drapeau, nous tenions le drapeau de la nécessaire libération. Je garde de cette époque, tapis en moi, cette impression lointaine et proche à la fois, que les mots ne suffisent guère à exprimer, mais que ceux et celles qui l'ont ressenti, je le sais, me comprendront, l'impression d'être, à cette époque-là, corps et esprit, prise dans l'excitation des colères et des révoltes qui viennent, qu'en est cette conviction, toute brûlante, que la justice, oui, la justice sous toutes ses formes, peut être obtenue par tous ceux et toutes celles qui la réclament. C'est ce souvenir que j'ai et qui ne me quitte pas, un souvenir que j'aime, le souvenir d'avoir vraiment été révélé par Abdelmayek Sayad a tué ma honte pour toujours, au point de ne plus éprouver de honte. C'est la honte qui est tuée, c'est la vérité qui est révélée, c'est le combat pour la liberté qui est révélé, simplement en éprouvant en même temps l'amour des miens et des miennes qui ont fait le monde ce qu'il est et qui vont faire d'un monde que je vais pouvoir reconstruire. En fait, ma fréquentation précoce, régulière, d'un autre monde, le monde des écoles, le monde des formations, des bibliothèques, des études, ce monde m'a permis de réaliser tout ce que je devais à Hanyar et Mohamed et tout ce que on leur faisait subir. C'est ce qui m'a permis de construire ma bataille. C'est ce qui m'a permis de construire mon savoir et de faire de ce savoir une nouvelle bataille. Ben voilà, c'était une belle conclusion de Kauthar Harshi, donc de son livre « Comme nous existons ». Et ça nous montre en effet l'existence vers laquelle on peut vouloir aller, et vouloir aller, mais ne craignez rien, c'est aussi ce vers quoi nous nous dirigerons avec nos autres émissions à venir. Donc nous vous laissons la surprise du futur pour un autre monde, bien sûr, avec, comme tout à l'heure, tout le bonheur du monde. Merci.
Au revoir.
Here's a song that